I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now?
We got trips right, 864, H-Dragon. Rap, rap.
Six, Brown, Richmond, 96 double. 96 double. Richmond, Florida, Buffalo, 97 double. Hot, hot.
Right, empty backfield, shotgun Smith. Saints bring extra man out. He's going to boot to his left and run. He's going to run it 20, 15, 10, 5. Touchdown. Do you believe it?
Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous dans l'épisode numéro 39 du podcast Jean Actu. Toujours très heureux de vous retrouver pour cette petite heure de NFL. Alain Mathieu au micro pour vous accompagner. À mes côtés, Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Camille est à la technique. Salut Camille.
Salut.
Au programme cette semaine, un dilemme au poste de quarterback à San Francisco, des champions qui jouent comme des champions, du rire avec les Jets et tous les autres matchs de la semaine. Dans vos questions, ce sera encore l'heure des dilemmes. Avant ça, il y aura une histoire de Philippe consacrée cette semaine à la rivalité entre les Ravens et les Steelers, ça promet. On se penchera ensuite sur les matchs de la semaine 13 et on terminera avec le 2 minute drill, tout ça accompagné par les choix musicaux que vous nous avez conseillés sur Facebook. C'est parti.
First down and goal. Kaepernick keeps it. He faked it to Hunter and he walks in for the touchdown.
Touchdown, Colin Kaepernick, une des stars de la semaine. Il a été choisi, en tout cas pour une semaine. Colin Kaepernick a encore gagné. Est-ce que les... Alors, Saints 21, 49ers 31, c'est le résultat. Mais la première question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que les 49ers ont fait le bon choix avec Colin Kaepernick, si c'est Colin Kaepernick qui reste?
Bah écoute, pour le moment, le premier match est une réussite. En tout cas, Colin Kaepernick s'est fait intercepter une fois, mais sans conséquence. Il a pas été trop mal à la passe, il a été plutôt précis, il s'est bien démarqué, il a fait quelques courses qui le caractérisent. Pour le moment, ça a l'air de marcher, surtout qu'il est aidé par une énorme défense. On reviendra sûrement dessus, mais bon, bah ça marche. Le système de jeu a l'air d'être bon pour lui. C'est à Harbaugh de décider maintenant.
Alors c'est ça, on le rappelle, Jim Harbaugh. Alors Alex Smith était physiquement capable de jouer ce match. Il avait eu le feu vert des médecins. Mais c'est Colin Kaepernick qui a joué. Alors, officiellement, Harbaugh voulait pas précipiter le retour de Smith parce qu'il avait eu le feu vert la veille.
Ce qui peut être un argument plus ou moins.
Moi, j'y crois pas. S'il a le feu vert, il a le feu vert.
Ouais.
Si les médecins disent qu'il est bon et qu'il est bon pour jouer, il est bon pour jouer. Jay Cutler a eu le feu vert la veille, exactement pareil. Si les Bears ont confiance en lui, ils le font jouer. Si t'as confiance en lui, tu le fais jouer. Si c'est ton quarterback numéro 1, tu le fais jouer.
Ah, bah, si derrière t'as personne pour jouer, tu prend peut-être pas un risque comme ça, surtout que les 49ers vont en playoff.
Mais c'est quoi le risque? Il a le feu vert des médecins, donc en théorie, là, en bonne santé, il joue.
Il peut se reblesser plus facilement, je pense.
Je sais pas. Franchement, j'avale pas l'excuse. Pour moi, il voulait le tester. Il voulait tester encore une fois Kaepernick pour se dire, ok, s'il se casse la tronche, je peux en mettre Smith tranquillement en disant il était blessé, je pouvais le préserver. Là, Kaepernick l'a mis encore plus dans la panade parce qu'il a fait un bon match. Alors, moi, pour mes impressions sur Kaepernick, c'est c'est vrai, il apporte quelque chose de différent. C'est sûr qu'ils sont plus explosifs potentiellement. Il donne une nouvelle dimension à cette attaque. Après, il n'a pas le côté expérience de Smith. Il n'a pas mené cette équipe en playoff. C'était que son deuxième match. Il faut voir comment il réagira aussi dans des matchs où ça va se compliquer. Et ça, c'est pour ça que c'est un peu l'événement de la semaine, parce que c'est pas tous les jours qu'un prétendant au titre joue avec son quarterback après 10 matchs dans la saison, alors qu'ils sont en tête de leur division. Voilà, c'est vraiment... alors vous sur le site, on vous a demandé dans notre premier sondage de la semaine 67% en faveur d'Alex Smith. J'avoue que je pensais que ce serait plus partagé.
C'est un plébiscite.
Ouais, je pensais que ce serait plus partagé. Vous avez, donc, moi je serais resté sur Smith aussi, je l'ai dit la semaine dernière. Son bilan à la quand il est titulaire depuis que Jim Harbaugh est arrivé, c'est 19 victoires, 5 défaites et 1 nul. Et il était excellent avant de se blesser. Donc je vois pas pourquoi Harbaugh fait durer le suspense comme ça. Voilà, encore une fois, il est peut-être sincèrement embarrassé, il pense peut-être sincèrement, il y a un vrai dilemme. Kaepernick voilà, aide vraiment cette attaque à prendre une autre dimension, mais c'est assez étrange qu'il joue comme ça. On voit dans le vestiaire certains joueurs, je crois que c'était Vernon Davis qui disait
qui préfère
Alex Smith, je pense que Alex Smith est toujours notre homme. Donc voilà, c'est vraiment étrange apparemment. Donc il va l'annoncer ce mercredi, vous le saurez peut-être juste après ce podcast, la décision de Jim Harbaugh. Bon voilà, c'est assez étrange. Il y a peut-être pas de mauvais choix au final d'ailleurs, mais pour la confiance de Smith, ça peut être très dur aussi de se retrouver comme ça.
Bah clairement, le scénario catastrophe, c'est le choix de Colin Kaepernick en titulaire, que Kaepernick se plante ou se blesse, et derrière tu remets un Smith qui a perdu confiance, qui peut faire un peu la gueule. On veut signer Peyton Manning à l'intersaison, il vient pas, on lui fait, on te fait confiance. Là, au bout de 10 semaines, alors que l'équipe est en tête, ah tiens, on met un rookie, on est à deux saisons.
Sophomore,
à ta place. Moi, je serais Alex Smith, je tirerais la gueule et je pense que j'irais essayer de voir ailleurs.
Alors quoi. Justement, à ce qui paraît dans les coulisses, il aurait vraiment très envie de reprendre son poste, même si officiellement, voilà, il est diplomate. il est comme tout le monde.
Oui,
voilà,
j'adorais la petite...
Il n'a pas envie de perdre son boulot.
La petite citation d'Alex Smith quand il dit « Oui, je suis content pour l'équipe, même si c'est pas... »
C'est ça, bon.
Okay, allez.
On sait que... en revenant sur le match, c'est ce que tu disais, Kaepernick, il est quand même très aidé par la défense.
Ouais.
Les Saints menaient 14-7 avec la possession, donc il y avait quand même moyen qu'ils se détachent. Ahmad Brooks intercepte, Drew Brees retourne pour un touchdown. Dans le troisième quart, Dante Whitner intercepte et retourne pour un touchdown. Donc ils sont quand même très bien aidés. La défense des Niners a limité les Saints à 290 yards. Donc
c'est ça, c'est pas mal quand même... pour limiter les Saints.
Énorme, ouais, contre les Saints, de les mettre à moins de 300 yards. Déjà, garder Brees à moins de 300 yards, c'est énorme. Mais alors, la défense générale, c'est pas mal. 5 sacks sur Drew Brees, qui en général se débarrasse vite du ballon. Ils les ont mis à 3 sur 11 en 3ème tentative. Enfin, ils ont vraiment fait un match plein en défense. Ouais. Et c'est surtout pour moi cette défense qui gagne le match plus que Kaepernick.
Ah bah clairement, puisque quand Kaepernick se fait intercepter, les Saints mènent 14-7. Et c'est vraiment sur le drive d'après, une action après, que Brees a intercepté pour remettre tout de suite l'équipe en jeu, remettre en confiance. Donc clairement, c'est la défense qui a été chercher ce match face à Brees, quoi.
Et pour les Saints, en tout cas, plus droit à l'erreur, hein. Falcons, Giants, Buccaneers, Cowboys, Panthers au programme.
Ouais, c'est un gros calendrier maintenant. Il y a peut-être le droit encore à une erreur. Ça perd aussi pas mal dans les prétendants.
C'est vrai que ça perd pas mal. C'est les leaders de division qui ont beaucoup gagné cette semaine.
Ouais,
et
mais
ça
mais
s'est
les
creusé.
Prétendants...
Ouais. Derrière, ça a chuté.
Bon, faut voir.
Bon, pas plus d'une défaite, parce qu'à 8-8,
non,
on passe pas. Hein.
Pas plus d'une défaite.
9-7, ce serait déjà très limite.
Maintenant,
à mon avis.
On peut rassurer les fans des Saints en disant qu'ils tombent sur une grosse équipe. Et que
ah, il n'y a pas à rougir de la défaite. Non,
voilà,
non, c'est vraiment pas un souci. Giants 38, Packers 10, en parlant de grosse équipe. Ils sont de retour, les champions.
Ouais.
Alors, Raphaël, tu es l'expert S-Giants. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils reviennent comme ça?
Ah, c'est un peu la bonne question, la question qu'on se pose, qu'on aimerait voir cette équipe plus souvent jouer comme ça. Bah, tout a marché, l'attaque, Eli Manning plus précis, qui a trouvé ses receveurs, pas d'erreur, 3 touchdowns. Et la défense, alors le premier drive, on a eu très peur quand Rodgers s'est tout de suite connecté avec Jordy Nelson, que ça a fait un touchdown de 60 yards, donc on s'est dit, bon, bah, ça va être soirée classique défense aux Giants. Et puis tout d'un coup, hop, boutique fermée, interception, fumble, sack. Je sais pas vraiment pourquoi tout d'un coup ils se sont dit bah ils sont arrivés avec le statut d'outsider, voilà.
Ça ils aiment bien, hein. De toute façon il faut pas qu'ils soient favoris. C'est vrai que le soulagement c'est Eli Manning. J'ai l'impression que cette équipe elle vit quand même au rythme d'Eli Manning, non? parce que il a 16 sur 30, 249 yards, 3 touchdowns. Il avait retrouvé du tranchant.
En attaque, c'est vrai qu'en attaque, même s'il a bien été aidé par son jeu au sol pour une fois, Bradshaw et Andrew Bourne qui ont bien joué.
Hakim Nicks aussi qui est très important quand il est là. 5 réceptions, 77 yards, 40 touchdowns.
Cruz est plus explosif, mais Nicks est vraiment le meilleur receveur.
Il permet de libérer Cruz.
En talent, il est quand même au-dessus. Donc forcément, l'attaque allait mieux avec Eli Manning, mais pour le coup, c'est vraiment la défense pour moi qui a fait le gros match, parce que limiter Rodgers à un seul touchdown, bloquer l'attaque des Packers comme ça.
Ça a aussi mis en valeur le gros point faible des Packers, qui est cette ligne offensive qui est en grosse difficulté. Il prend encore 5 sacs. Alors, Rodgers est beaucoup saqué, par contre, à l'inverse d'un Manning ou d'un Breeze. Il se débarrasse moins vite du ballon. C'est un peu inquiétant. Et justement, alors, autant je leur aurais accordé le bénéfice du doute à cause des blessures, parce qu'ils n'ont pas Matthews, ils n'ont pas beaucoup de monde qui était absent sur ce match. Mais cette ligne offensive, elle est vraiment inquiétante. Et s'ils tombent sur des Niners ou des Giants ou des Seahawks en playoff, j'ai peur que ce soit très compliqué pour eux de se mettre en place, surtout que leur défense n'est plus aussi dominatrice qu'avant.
Non, c'est vrai.
Et que du coup, ça peut vite se compliquer.
Ça peut vite se compliquer, d'autant qu'ils n'arrivent pas à imposer leur jeu au sol. Donc les adversaires savent que dans les trois quarts des cas, ça va être une passe de Rodgers. Ils ont le temps de se préparer vraiment à les tactiques pour mettre en difficulté la ligne offensive des Packers. C'est le cas, quoi.
Troisième match de la semaine, Lions 31, Texans 34. Après prolongation, on revient à ce match de Thanksgiving. Le match dingue de la semaine, complètement dingue, et c'était encore avec les Texans comme la semaine dernière. Match encore gagné en prolongation. Il s'est passé 10 000 choses dans cette rencontre. Ouais. On va les prendre une à une. Alors, dans l'ordre sur le déroulé, on va résumer d'ailleurs le déroulé. Les deux équipes ont chacune manqué un field goal en prolongation pour gagner. J'étais persuadé qu'on allait à la deuxième égalité.
Oui, je pense aussi.
J'avais l'impression que personne ne pouvait gagner ce match. Un fumble de Petit Gros aussi en prolongation. Une interception pour chaque quarterback en prolongation. Et puis le field goal de la gagne à 2 minutes de la fin. C'était hallucinant en termes de spectacle. Et on a cru que ça finirait jamais.
Ah oui, le spectacle offert par les deux équipes en prolongation a été, comme tu l'as dit, dingue. Vraiment. Enfin, les deux défenses ont fait finalement des belles prolongations parce qu'elles ont stoppé les attaques, elles ont essayé de stopper les attaques quand il fallait en créant des turnovers. Pour le coup, l'attaque des Texans a été un peu plus forte en fin de match. Mais il y a quand même des petits doutes. La défense des Texans déçoit un peu là, ça fait deux matchs.
Ouais, ils ont une petite baisse de forme, c'est ce qui m'inquiète aussi.
Beaucoup de blessés là.
Et celle des Lions progresse un peu. La ligne défensive, a mis pas mal de pression dans son style dirty Sue a bien joué, dans son style propre Ferley a bien joué aussi. C'était vraiment pas mal, je trouve, au niveau de la ligne. Ça a commencé à se matérialiser un petit peu, surtout que les Texans c'est pas des rigolos dans ce domaine là.
Même Cliff Avril a fait un très bon match d'ailleurs. Sue en fait est vraiment pas le meilleur joueur de cette ligne défensive. On en parle plus que les autres, il est plus médiatique. Mais moi, je le trouve derrière Ferley, derrière
Ferley
Avril.
Ferley a bien joué.
Même Cliff Avril, faudrait qu'il arrête de jouer dirty, qu'il se concentre un peu plus sur...
On va en parler tout de suite, j'avais ça pour après, mais le coup de pied de Ndamukong Suh dans les noix de Matt Schaub. Alors, Roger Goodell dit lui-même c'est dur de définir si c'était volontaire ou pas.
C'est vrai
que c'est très dur définir si c'était volontaire ou pas. Il y a un petit mouvement du pied qui est étrange à la fin de son geste.
Puis il y a surtout la tête qui se retourne, il voit bien où est Schaub, et juste après, vraiment, on a ce...
Disons que c'est des athlètes qui savent gérer leur corps, normalement.
Je suis plus ou moins d'accord, moi aussi, j'aurais plutôt dit qu'il était intentionnel, le petit coup,
Très honnêtement, je trouvais ça agaçant à la fin. On dirait qu'il est vraiment... Alors, soit il réfléchit pas, il y va comme un bourrin, et c'est plein de bonnes intentions parce qu'il veut aider son équipe, mais il réfléchit vraiment pas. Soit il est vraiment très méchant. Enfin, je le trouve vraiment sale, parce que sur toutes les actions, il essaie de faire un truc sale. T'as l'impression que sur toutes les actions, quand
il est attrapé par le col, vraiment,
il descend chaud par le col, c'est un coup à lui faire très mal aux genoux ou aux jambes. À chaque action où il était prêt, il essaye de balancer un coup, de balancer quelque chose. Même quand l'action est terminée, il essaie de balancer. Je trouve ça un peu trop. Je suis pour que le quarterback se fasse bien saquer, je suis pour qu'il y ait quelques chocs. Je suis pas pour les coups de sifflet quand le gars est dans l'élan et qu'il le touche, des choses comme ça.
Non, je suis d'accord.
Mais il fait des choses qui sont pas nécessaires, quoi. C'est ça qui est un peu agaçant avec lui. Il pourrait avoir du talent, et ce que tu disais, il faut se concentrer sur le jeu, sur ce qu'il pourrait faire bien. C'est vraiment pas nécessaire. Il échappe à la suspension cette fois. Encore une fois,
on laisse le bénéfice du doute.
Il y a le bénéfice du doute, mais franchement, c'est très limite. L'autre fait du match, c'est ce touchdown accordé aux Texans alors que Justin Forsett était au sol. On va peut-être pas revenir, disons, là-dessus. Il faut surtout changer la règle, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, le touchdown n'est pas polémique dans le sens que c'est James Schwartz qui fait l'erreur. Donc à partir de ce moment-là, les arbitres appliquent comme il faut la règle. Ils sont pas en tort. Le débat est plutôt sur cette règle qui empêche le coach
faut, à la limite ils lui mettent la pénalité de 15 yards, mais faut pas que ça empêche de revoir une action qui allait être revue, quoi. C'est ça
oui,
qui
voilà,
est ridicule.
Oui, voilà, mais c'est ça, faut changer cette règle. Après le touchdown en soi, on peut rien dire.
On rappelle à ceux qui n'ont pas vu, Jim Schwartz a lancé son mouchoir rouge pour que l'action soit revue alors qu'elle devait être revue automatiquement. Mais dans ces cas-là, ça annule le replay, voilà, ça annule le ralenti de l'action par les arbitres, ce qui est quand même très bête, et d'autant que ça allait annuler ce touchdown, quoi. C'était irrévocable, enfin c'était irréfutable l'épreuve. Donc c'est vrai que voilà. Alors est-ce que ça coûte le match aux Lions? Est-ce qu'ils méritaient de gagner ce match d'après toi?
Je sais pas si ça leur coûte vraiment le match, parce qu'après une fois en prolongation, la défense des Texans stoppe aussi l'attaque, elle va chercher le match. Voilà. Après dans le déroulement du match, effectivement ça donne un coup de moins bien aux Lions.
Encore une fois, moi j'ai vu pas mal de progrès, je trouve qu'ils étaient assez convaincants. Stafford lance 61 passes, ouais, et il arrive à pas se faire intercepter une seule fois, ce qui est quand même pas mal. 441 yards pour lui, ils ont gagné 525 yards au total sur la défense des Texans, qui est censée être pas mauvaise. Donc vraiment, je trouve qu'il y a du progrès dans cette équipe, même s'ils ont perdu. C'est un peu plus rassurant, ce qu'on disait déjà avec la défense. Pour les Texans, alors c'est embêtant, c'est comme toutes les équipes qui gagnent difficilement en ce moment et qui sont dans le haut de tableau. Ils font le boulot, ils arrivent à gagner quand même.
C'est ça, on sait pas trop.
Donc c'est le positif. Après, ils se sont fait embêter, mais ils arrivent à gagner. Donc c'est de l'expérience aussi pour les matchs durs de playoffs qui
s'accumulent. Ouais, puis ces dernières années, on a quand même plus d'exemples d'équipes qui galèrent pour gagner mais qui vont au bout que d'équipes
c'est
qui
ça.
Ont déroulé toute la c'est saison ça, ouais. Et qui se font surprendre parce qu'ils ont tellement.
Donc c'est peut-être pas une mauvaise chose pour eux. Un petit jingle un peu original, vous allez voir de quoi sûrement reconnaître. Raphaël s'en étouffe. Un petit jingle original, vous allez sûrement reconnaître de quoi on parle, et on se retrouve pour les autres matchs de la semaine. And it's alive, and then going into the end zone is Steve Gregory, who's had an interception, two fumble recoveries, and a touchdown. I've
never seen this before in my life.
Mark Sanchez et les Jets, les grands amuseurs publics de la NFL. Ouais. Cette semaine, on va y revenir. Mais d'abord, Cowboys 31, Redskins 38, le match de Thanksgiving entre les deux équipes. Robert Griffin encore épatant.
Ouais, là, vraiment, le mot épatant et l'adjectif qu'il faut. Il s'est baladé sur le terrain, il a complètement bouffé la défense de Dallas, il en a fait ce qu'il en voulait. Je pense que Rob Ryan a dû en faire des cauchemars toute la nuit.
C'était vraiment affolant, il est hallucinant.
Ouais, bien aidé aussi par le retour de Pierre Garçon qui aide vraiment Robert Griffin.
Et Alfred Morris, 113 yards, qui permet aussi d'équilibrer cette attaque.
On a un bon duo de rookies du côté de Washington.
Tony Romo a dû lancer 62 passes. Ils ont gagné que 14 yards au sol. Alors, il a dû lancer beaucoup parce qu'ils étaient distancés très rapidement. Mais c'est quand même très compliqué. Je dirais bien qu'il faut tout détruire à Dallas parce qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe à l'heure actuelle.
Ouais, il manque.
Mais le problème, c'est que la seule chose que tu ne peux pas virer, et je pense que c'est celle qui ne va pas, c'est le proprio. Je pense que c'est la direction de la franchise qui.
Bah, faudrait qu'il soit capable de donner un peu plus de pouvoir.
C'est ça.
Soit un coach fort.
C'est ça. Faudrait qu'il accepte de donner du pouvoir à un coach. Et je sais pas si ça peut arriver au jour d'aujourd'hui.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment les joueurs qui posent problème parce qu'il y a quand même du talent. Je veux dire, bon, là, ils ont encore très mal démarré le match.
Talent, mais il leur faut une direction.
C'est ça. Il faut un coach qui a le caractère et qui dise à Jerry Jones, tu restes en tribune, tu me laisses faire. Et voilà quoi. Enfin.
Il l'avait fait un moment avec Bill Parcells, ça allait un peu mieux. Ouais. Et puis bon, ça a rechuté. Jets 19, Patriots 49. Une petite musique peut-être, Camille, pour ce match. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue au Cirque Jets. Ce soir au Cirque Jets, l'incroyable Mark Sanchez vous présente son numéro d'acrobate, les ballons volent, les points défilent. Bienvenue au Cirque Jets. Voilà à peu près.
Ouais, c'était à peu près l'idée du match.
C'était un peu l'idée du match, non, je me suis mal trompé.
Et en plus, 19 points, ils ont de la chance parce que les Patriots se relâchent en fin de match. Hein,
qu'on s'est marré.
Ah oui,
qu'est-ce qu'on s'est marré.
52 secondes.
3 touchdowns encaissés en 52 secondes. Le premier fumble, il vole, mais d'une manière irréelle. Il sort de la pile, le ballon. On dirait un sketch. Il retombe dans les mains d'un gars qui va tout seul.
Deadelman.
Non. Ça c'était celui sur le retour. Je parle de celui de Sean Green au début là.
D'accord,
il se précipite dans la pile et d'un coup, ou un ballon qui vole, il manquait plus que le bruitage, le whip. Et donc défense touchdown, celui de Sanchez.
Alors, quand il rentre dans la chaise de son coéquipier.
Sans mauvais jeu de mots, je dirais que ça va rentrer dans les annales de la NFL.
Voilà.
Celui-là est fabuleux. Il n'y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Non, vous avez vu le replay sur, sur le site. Pour ce qui est... On va peut-être pouvoir arrêter la musique, Camille, merci. Donc pour celui-là, c'est vraiment hallucinant. Et puis après, donc il y a ce fumble sur le retour qui tombe directement dans les mains de Julian Edelman. Mais on dirait que c'est une passe.
Je crois qu'il croit même pas.
On dirait que c'est une passe. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que bon, alors, on se moque des Jets, mais ils ont vraiment pas de chance parce que je pense que même si tu essayes, tu peux pas faire rebondir ces ballons, ces trois ballons plus parfaitement que ça pour les Patriots.
C'est vrai que pour le coup, c'est...
celui qui tombe dans les mains d'Edelman, il est fabuleux.
En plus, ça tombe à chaque fois du côté du terrain où il n'y a plus aucun joueur des Jets pour permettre vraiment aux joueurs des Pats de partir.
Ils prennent vraiment trois rebonds parfaits pour les Patriots.
Et alors, la tête de Rex Ryan au troisième touchdown en encaissant, enfin, tout le dépit de ce pauvre homme. Qui...
Et au final, les Jets, c'est un peu. On parlait de Robert Griffin. Les Jets, c'est Robert Griffin à l'envers. Toutes les semaines, il trouve un truc différent. Mais pour être hallucinant, pour être mauvais.
Disons qu'en face ils ont une grosse équipe quand même des Patriots.
Ouais, ils ont une grosse équipe des Patriots, mais allez, quand tu prends 5 touchdowns en 9 minutes au total, deuxième quart.
Non, mais j'essaie pas de les défendre.
C'est assez hallucinant. Bon, la question tout le temps avec les Jets, qu'est-ce qu'il faut casser,
Mais tu sais que finalement, je me dis tant mieux que pour Tim Tebow, il joue pas dans cette équipe parce que finalement, ça lui évite d'être encore plus ridicule.
Ouais, mais il faudrait. Mais alors, c'est pareil, il a quand même réussi à être dans la polémique parce que il est sur la feuille de match, il est en tenue, mais il a les côtes cassées.
Ouais.
Et on dit, parce que c'était quand même le moment ou jamais pour le faire rentrer en théorie.
Ah bah là, oui. Ah bah là, si tu le fais pas
et
rentrer.
Et là, on dit,
là,
ah bah non, mais en fait, il avait les côtes cassées, il peut pas jouer. Donc ça, c'est pareil, c'est ridicule aussi, quoi.
C'est vrai.
Ils sont en train de s'enfoncer dans quelque chose. Et au bout d'un moment, très honnêtement, moi j'ai mis la vidéo sur le site hier où ils se font insulter par leurs supporters. J'ai mal au cœur pour eux, j'en rigole, je me moque d'eux et on en plaisante parce que voilà, c'est du sport et on en rigole. Mais c'est très dur pour eux de se faire insulter comme ça parce que pour la plupart ils donnent des efforts, c'est des professionnels, ils font leur taf.
Puis il y a pas si longtemps ils étaient en finale de conférence et tout, je veux dire, c'est quand même un
c'est
groupe,
ça. Bon, alors il y a moins de talent, c'est clair, mais c'est très dur quand même pour eux et on commence quand même à avoir mal pour eux, on en plaisante, mais ça commence vraiment à faire mal pour eux. Après, il va falloir faire quelque chose quand même. Sanchez est pas l'homme de la situation, Ryan commence à plus ressembler à vraiment l'être. Donc va falloir faire quelque chose. Allez, on enchaîne un peu parce qu'on est en train de prendre du retard là, à rigoler. Bears 28, Vikings 10, victoire tranquille pour les Bears.
Victoire tranquille pour les Bears, les Vikings souffrent vraiment sans Percy Harvin en attaque.
Ouais, et puis bon, deux fumbles pour Adrian Peterson, ça fait mal. Mm. Christian Ponder qui a lancé beaucoup pour très peu de yards, ça a été compliqué. Bon,
faut faire attention quand même aux 6 titulaires blessés du côté de Chicago, il y a quand même eu une hécatombe
ouais,
là.
Ouais, il y a eu une petite hécatombe, ça a surveillé, au niveau des blessures. Bengals 34, Raiders 10, très tranquille, ils déroulent ces petits Bengals, moi j'aime bien.
Ils déroulent, ouais, j'aime beaucoup Andy Dalton qui fait une deuxième saison excellente.
Il commence à distribuer le ballon, c'est ça qui est très intéressant aussi.
Ouais.
Et puis 129 yards au sol pour Ben Jarvis Green Ellis, très bonne nouvelle aussi. Les Raiders, bon, ils ont fait du Raiders de ce côté-là.
Palmer qui est revenu à Cincinnati.
Browns 20, Steelers 14. Alors on aurait pu remettre la musique du cirque presque. Carnage offensif de la semaine, 8 ballons perdus pour les Steelers et ils perdent que de 6 points.
Non, grâce à une défense exceptionnelle, encore une fois.
Même Tomlin après le match a dit, je comprends pas qu'on soit si proche.
Ouais, bah c'est ça, mais le problème c'est que, ok, Ben Roethlisberger n'est pas là, mais justement, ses partenaires doivent faire un surplus d'efforts pour pas perdre ses ballons. Quoi.
C'est honteux de faire ça. La deuxième mi-temps des Steelers, je l'avais mis dans le résumé, et ça me fait toujours rire de donner l'enchaînement. Punt, interception, punt, interception, punt, interception, fumble perdu, fumble perdu. Ouais, c'est toute leur position de la deuxième mi-temps, c'est assez terrible. Clairement, Roethlisberger est essentiel à cette équipe, il n'y a pas besoin de le redire. Vivement qu'ils reviennent, apparemment, ce ne sera pas cette semaine. Ça va compliquer leur course au play-off, ils sont encore dedans parce qu'ils vont être à 6 victoires, 6 défaites, je crois, s'ils perdent cette semaine. Mais il va falloir, du coup, ça va réduire leur marge d'erreur et ils vont passer une fin de saison moins tranquille que ça aurait pu l'être. Colts 20, Bills 13.
Pas un trop grand match, mais les Colts ont fait ce qu'il fallait, un peu de défense, hein, Andrew Luck pas trop mal, et voilà.
Je crois que le highlight du match, c'est les cheerleaders qui se font raser le crâne.
Ouais, c'est pas
c'était pas très joli, ni le match, ni ça d'ailleurs. Moi je comprends pas pourquoi elles ont, parce que tu sais, elles ont dit, si on réunit 10 000 dollars, on se rase le crâne. Elles ont réuni les 22 000 dollars avant le match. Pourquoi à ce moment-là ils disent pas ok merci c'est sympa d'avoir aidé, au revoir. C'était assez dur.
Ouais.
Bon, c'est dommage. Jaguars 24, Titans 19. Alors, tu gardes toujours Blaine Gabbert maintenant?
Je sais pas.
Il y a quelque chose quand même.
Il y a quelque chose. C'est vrai. Faut reconnaître.
C'est pas la même équipe.
Faut lui reconnaître. Surtout, il gagne sans Maurice Jones-Drew en attaque.
C'est ça.
Et ça, c'est vraiment pas mal quand même.
Ils viennent de marquer 37 et 24 points sur les deux matchs avec Gabbert. Avec Chad Henne. Avec Gabbert, ils avaient jamais passé les 22 points.
Non, c'est vrai, il y a quelque chose.
Donc il y a quand même quelque chose. Moi, ça me suffit pour mettre Gabbert à la porte, très honnêtement.
Surtout, Blackmon sort de sa boîte.
Ouais, Blackmon et Cecil Short, c'est en train de devenir un vrai duo de receveurs. Et ça, bon, ça fait la différence aussi. Mais le fait est que les quarterbacks, certains quarterbacks rendent leurs receveurs meilleurs. Peut-être que Blaine Gabbert n'y arrive pas. Parce que bon, ils sont quand même là. Alors, je sais pas. C'est, peut-être qu'ils ils vont mieux et qu'ils commencent à prendre le rythme. C'est un mélange de tout.
Oui,
mais,
c'est ça.
Mais bon, ça reste inquiétant pour Gabbert. Ça reste inquiétant pour Locker aussi, un peu au niveau de la précision, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Au niveau de ce match. Bon, les Titans ont fait sauter leur coordinateur offensif. Très honnêtement, ça a un peu gonflé parce qu'il a un quarterback débutant. Il y a eu des blessures et tout ça.
Je suis pas
convaincu pareil. Par le move. Ça sent la soupape de sécurité à plein nez. Chiefs 9, Broncos 17. Pas un match très joli.
Ouais, Peyton Manning qui confirme qu'il a un peu plus de mal face à Romeo Crennel, mais bon, il a fait quand même le taf qu'il fallait pour gagner.
Ils s'en sont sortis. Bon, ça aide hein, quand les gars d'en face peuvent pas mettre un touchdown.
C'est vrai.
C'est plus facile. Dolphins 24, Seahawks 21. 16 passes de. Alors, duel de rookie.
Ouais, avec un très bon Wilson pour une fois à l'extérieur, mais ça commence à être un peu rageant, ces Seahawks qui n'arrivent pas à s'en sortir à l'extérieur.
Ouais, là, pour le coup, il n'a pas à s'en vouloir Russell Wilson parce qu'ils font un bon match. C'est la défense qui a un peu lâché sur la fin, malheureusement pour lui. 16 passes complétées de suite, hein, même pour Wilson pendant ce match. C'est Ryan Tannehill qui l'emporte. Il faut lui donner le crédit. 1 minute 32 à jouer. Il remonte sur. Il part de ses 10 yards et il nous fait un drive Brady-esque des beaux jours pour remonter. Vraiment, vraiment cool et bien sur ce drive. Donc rien à dire. Il va le chercher.
Non, Victor Meurite.
Il va le chercher. Bon, voilà. Dommage pour Wilson qui fait un bon match hein, cette fois à l'extérieur. Buccaneers 23, Falcons 24.
Ils sont pas passés loin les Buccaneers de se sortir de ce match. Dommage pour eux.
C'est
mais
un vilain drop, je crois que c'est vers 4 minutes de la fin, quelque chose comme ça, sur leur dernier drive, là où il manque le field goal. Un vilain drop qui aurait pu les aider. Et, honnêtement, je sais pas pourquoi ce match m'a pas scotché.
Non, il a
je
pas été.
Je m'attendais à mieux. Ils gagnent, alors les Falcons gagnent, ils sont efficaces, ils tuent bien le chrono à la fin. Ils font le boulot. Grosse action de Julio Jones dans le troisième quart-temps pour ouvrir un peu le match. Mais on va encore dire que je leur en veux, mais ils me mettent pas sur le cul en fait depuis le début de la saison. Vraiment une perf où ils dominent, il y en a eu une ou deux, je crois, au début de la saison.
Ouais, contre les Broncos.
Mais voilà, bon, ils font le boulot. Je veux pas qu'on dise que je suis médisant encore avec
c'est
eux.
Fait,
ils font le boulot, c'est comme les Texans.
Important.
C'est comme les Texans, c'est du bon pour eux parce que ça leur apprend à gagner difficilement. C'est pas plus mal pour les playoffs. Cette équipe, elle est solide de partout. Elle fait pas de grosses erreurs. Elle est pas tout le temps explosive, mais elle fait pas de grosses erreurs.
C'est vrai.
Donc ça peut marcher en playoff. Voilà. Au final, c'est peut-être
recette pour gagner.
C'est peut-être plutôt pas mal. Peut-être qu'en playoff, ils vont solidifier encore un peu plus ça. Mais ils ont pas de gros points faibles. Donc c'est plutôt pas mal pour eux. Le seul truc qui me dérange, c'est que Michael Turner est cramé.
Ah oui, il est complètement cramé. Ça fait deux matchs de suite qu'il se fait dépasser par le petit rookie.
Jacquizz Rodgers, qui est deuxième année, je crois.
Deuxième.
Ouais. Mais il faut lui filer le jeu au sol à Rodgers parce que 17 yards en 13 courses, c'est plus possible. Honnêtement, Turner fait un peu mal au cœur là maintenant. Chargers 13, Ravens 16 après prolongation. Ou comment Ray Rice a sauvé les fesses de Joe Flacco?
Ah ouais, là pour le coup.
Alors les Chargers se sont tirés, mais c'est même plus une balle, c'est
un
boulet de canon dans le pied. 4ème et 29, plus long first down sur une 4ème tentative sans pénalité depuis 2001. Ray Rice est allé chercher ça, et c'est pas sur une longue passe. Hein.
Non, c'est sur une course.
C'est sur une check down, c'est sur une check down alors qu'il n'y avait pas de solution. Flacco, alors. Ray Rice énorme, mais quand même la défense des Chargers
est responsable. Voilà, elle doit pas laisser un coureur faire ça sur une 4 et 29 à une minute de la fin. Enfin non, c'est vrai que c'est pas possible.
Bon, et puis Flacco qui a plus grand chose à réclamer au niveau des dollars en ce moment parce qu'il continue de galérer.
Il était un peu mieux en fin de match, mais bon.
Cardinals 17, Rams 31, 4 interceptions pour Ryan Lindley, le choix de Ken Wisenhunt au poste de quarterback.
C'est ce qu'on appelle un très grand choix.
Alors, c'est officiel, hein, ils ont pas de quarterback.
Ah non.
À part si Kevin Kolb revient.
Ouais.
Mais ils avaient les Rams, ils avaient qu'à ramasser quoi. Janoris Jenkins qui met deux touchdowns.
C'est fait plaisir.
Ah ouais, il s'est fait. Magnifique. Alors la récap du match sur NFL.com, la vidéo dure 34 secondes.
Ah, pas mal, ouais.
Pour dire l'intérêt de ce match. Allez, on va pas passer plus de temps non plus là-dessus. Eagles 22, Panthers 30.
Cam Newton a retrouvé un peu le sourire face à des Eagles où il y a vraiment plus rien.
Premier match gagné par Cam Newton quand il dépasse les 300 yards à la passe. D'habitude, voilà, l'effort était pas le même. Et puis bon, les Eagles, malheureusement, donc Deshaun Jackson, saison terminée.
On va dire au moins Nick Foles a pas fait d'erreur sur ce match.
C'est vrai, c'est vrai. Le rookie, le coureur rookie, je crois que c'est Bryce Brown, il s'appelle. Hein. Ouais. Sort un gros match. Dommage, il y a ces deux fumbles à la fin. Mais c'était pas mal. Quand Andy Reid comprend qu'il a des coureurs, c'est mieux. Mais bon, encore une fois, moi je reste persuadé qu'il faut le coup et qu'il faut le virer maintenant, Andy Reid. Même s'il n'y a personne à engager, c'est pas grave. Ouais. Ça permet que le poste soit ouvert, qu'il commence à rechercher justement quelqu'un, si c'est un Gruden, un machin, ce qu'ils veulent. Mais enfin, faut le voir en conférence de presse. T'as envie de te lever pour aller lui faire un câlin, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Et tu veux lui, si tu l'aimes, enfin, alors oui, si t'as du respect, tu le gardes jusqu'à la fin de la saison. Mais si t'as du respect, tu lui imposes pas ça pendant encore 5 matchs, quoi.
Ouais,
parce que toutes les semaines, on va demander s'il est viré. Toutes les semaines, ils vont faire cette tête-là.
Non, mais
et je pense qu'il faut arrêter.
Je pense
quoi.
Ce qu'il pourrait faire, c'est au moins. On dirait prochaine conférence d'avant match, il dit l'année prochaine je pars, je finis cette saison, maintenant on est lancé, on finit et je pars l'année prochaine.
Ouais, à la limite ce serait plus classe. Parce que
voilà, comme ça on sait il part, point barre.
Ouais, je prépare le terrain pour le suivant.
On lui laisse finir son truc parce qu'il a quand même fait des choses bien avec les Eagles par le passé.
Et puis là, alors, est-ce que c'est une bonne chose de couper Jason Babin?
Je suis un peu surpris, après il a 32 ans, il le pense peut-être quand même. Il y a peut-être quelque chose qu'on sait pas niveau blessure ou.
Ouais. Moi je trouve ça, j'aurais viré Reed avant Babin quand même.
Ouais, je sais pas.
Pour voir si je pouvais en tirer autre chose avec un autre coordinateur ou quelque chose comme ça. Ça me paraît assez étonnant. Jingle top et flop s'il te plaît Camille. Les tops et les flops de la semaine, c'est parti. Top 3, flop 3, top numéro 1 pour toi.
Les Jets et les 52 secondes de bonheur jeudi soir.
C'est un top, c'est même pas un flop tellement.
Ah non, c'est un top,
c'est comme un film qui est tellement mauvais qu'il en devient génial.
C'est Nanarland, c'est ça.
Pour moi, c'est Ray Rice. Bon, on a dit que c'était la faute de la défense des Chargers, mais il faut aller le chercher quand même. Et une action vraiment où il s'arrache et qui est assez impressionnante. Parce que quand tu prends le ballon sur la check down et que tu vois qu'il y a 27 yards à faire devant
c'est ça,
toi,
il faut quand même les faire.
Tu te dis, faut quand même les faire. Top numéro 2.
Ah ben, ça m'embête un peu parce que j'avais aussi Ray Rice. Bon, donc,
il est double topé.
Voilà.
Ryan Tannehill pour moi, donc ce fameux dernier drive avec des passes de 19, 15, 25 et 7 yards quand même. Donc,
c'est vrai.
Vraiment du très solide. Impressionnant toujours ce genre de match pour un rookie. Hein. Top numéro 3.
La défense des Giants qui m'a enfin fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on attendait ça. Quoi.
Top numéro 3 pour moi, Janoris Jenkins. Deux interceptions pour lui, on l'a dit. C'est fait plaisir. Il continue à revenir fort. Cette petite suspension là, il y a deux semaines, l'a peut-être recadré. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il a du talent. C'est le premier rookie à marquer deux touchdowns sur des interceptions depuis les années 60, et c'est le premier dans l'histoire des Rams. Les flops numéro 1.
Les Seahawks à l'extérieur, je trouve ça un peu énervant que cette équipe arrive pas à pousser la victoire à l'extérieur. En NFL, il y a 8 matchs à l'extérieur, va falloir les gagner à un moment. Quoi.
Numéro 1 pour moi, Ndamu Kongsu, avec le Kuba annuel de Thanksgiving. Qui devient un peu une tradition. c'est comme ça. Flop, numéro 2.
Jim Schwartz, le coach des Lions, qui fait pour moi une erreur qu'un grand coach ne doit pas faire. Quoi. Quand il jette, je suis désolé, mais il doit pas.
Je lui pardonne presque un peu, parce que le truc est tellement évident que tu as envie de courir sur le terrain pour leur dire non, et tu jettes. Bon, après, c'est sûr
qu'il faut
avoir du sang-froid aussi. Quoi.
Que l'aurait pas fait celle-là, mon ami.
Faut avoir du sang-froid, c'est sûr. Flop numéro 2 pour moi, l'attaque des Steelers, on l'a dit, 8 pertes de balles, et puis Charlie Batch qui a quand même le bras en chewing-gum.
C'est vrai.
Ça a vraiment pas l'air. Limite, tu peux tester Brian Hoyer que tu as signé la semaine dernière, c'est pareil. Quoi. Flop numéro 3.
Eh ben, écoute, double flop, parce que moi aussi, c'était l'attaque des Steelers, tu dois pas perdre de ballon comme ça quand ton quarterback est pas là quoi.
Et puis mon flop numéro 3 alors pour terminer ce sera les Raiders, cette bagarre un peu ridicule en fin de match, et puis ce qui me déçoit pour eux c'est même pas la bagarre, c'est qu'ils soient tombés maintenant à ce stade où tu regardes et tu fais bref c'est les Raiders quoi. Voilà, ça c'est quand une équipe en arrive là où tu
c'est
fais
vrai.
Ah c'est eux quoi, là ça devient grave. Jingle et on se retrouve pour l'histoire de Philippe.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots, and you're listening to the Touchdown Podcast.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
La question, l'histoire, pardon, de Philippe, je suis en avance. L'histoire de Philippe, cette semaine, elle est consacrée à la rivalité entre les Pittsburgh Steelers et les Baltimore Ravens, rivalité qui va reprendre encore cette semaine. Sans plus tarder, je laisse la place à Philippe.
Ravens-Steelers, c'est l'histoire d'une rivalité encore jeune, mais appelée Cessure, à marquer la NFL sur la durée. Ça débute en 1996, 12 ans après que les Colts de Baltimore aient mis les voiles à Indianapolis. Art Model décide de fermer boutique à Cleveland au moment où Bill Belichick et sa bande commencent à peine à avoir des résultats. Les Ravens naissent et remplacent les Browns dans le rôle de meilleur ennemi des Steelers. Cette rivalité, elle est d'abord sportive, puisque les deux franchises jouent chaque année le titre. Elle est ensuite basée sur un esprit commun, celui d'un jeu avant tout physique qui s'appuie sur du jeu au sol et sur un style de défense assez similaire, brutal, efficace, spectaculaire et incarné par des joueurs charismatiques. L'autre volet, il touche au marketing sportif. Dans la zone la plus à l'est de la Pennsylvanie, à Harrisburg, les Ravens prennent des parts de marché aux Steelers sur la moitié de la saison puisque tous leurs matchs à l'extérieur sont diffusés par la chaîne WHP Télé. Côté terrain, la série est aujourd'hui dominée par Pittsburgh 21-15 avec un 3-0 en playoff. La première claque est portée par les Steelers en 1997 avec une victoire 37-0. Le premier coup d'éclat des Ravens, il arrive en 1999 lors d'un succès 31-24 à Pittsburgh et un match de fou du receveur Quadri Ismaël qui plante 3 touchdowns et 258 yards de réception. Vient alors l'année 2000, les Ravens s'imposent 16-0 à Pittsburgh puis remportent leur premier et unique Super Bowl à ce jour avec une défense comme on n'en avait plus vu depuis longtemps, emmenée par Ray Lewis et Ed Reed. C'est là que débute vraiment la rivalité Ravens-Steelers. Parce qu'à Pittsburgh, on a la tradition de la gagne et dès lors, on comprend, on réalise que cette nouvelle rivalité sera bien moins facile à dominer qu'avec les Browns. Depuis, on a eu droit à une petite controverse sur une histoire de prime posée sur la tête de Hines Ward, le receveur des Steelers, par le linebacker Terrell Suggs. Mais le pic de la rivalité, on l'atteint en 2008, avec deux matchs de saison régulière au cordeau, remportés 23-20 en prolongation, puis 13-9 par les Steelers sur un dernier touchdown litigieux. Joe Flacco fait alors ses débuts. Les deux franchises se retrouvent en finale AFC. Troy Polamalu retourne une interception. Ryan Clark envoie Willis McGahee à l'hôpital. Et Pittsburgh fait gagner son 7e Super Bowl, record NFL absolu. Le seul moment d'accalmie entre les deux franchises, c'était le 23 septembre dernier. À l'instar d'autres joueurs NFL, des membres des Steelers prennent le temps d'appeler le receveur Torrey Smith. Il vient de claquer un match énorme contre les Patriots, alors que son frère s'est tué en moto le matin même. En 2010, les coachs Mike Tomlin et John Harbaugh sont tombés d'accord, pour une fois, sur le fait que la rivalité Ravens-Steelers était la meilleure de la NFL. On s'emballe pas quand même, messieurs, on est encore loin de l'affrontement historique Bears-Packers, mais admettons que tous les ingrédients sont là. Chaque fois que Baltimore et Pittsburgh se retrouvent, il y a beaucoup plus qu'une simple victoire en jeu. C'est avant tout une question d'honneur et de fierté.
Merci Philippe pour cette nouvelle excellente chronique. Philippe Barcelona, que vous retrouvez toutes les semaines pour l'histoire de la semaine. Tout de suite, c'est l'heure de vos questions spéciales dilemme.
«
vos questions spéciales dilemme cette semaine, un choix ou un autre, sans, avec explication ou sans explication. Ouais, d'ailleurs, on fera un peu au feeling. Ouais, on est parti.
Alors, on commence par Tonton Red, Team Thibaut ou Marc Sanchez?
Thibaut
aussi.
C'est le moment maintenant, il n'y a plus.
Passe ou rush? La passe, personnellement.
Passe rush, un bon sac de temps en temps.
Non, passe ou rush. Je pense que c'était plutôt passe ou course.
Ah, oh, pardon, je pensais pas ce rush comme ils étaient. Ouais. Plutôt rush, alors un petit peu d'old school de temps en temps. Une belle course, tu sais, quand le mec évite tout le monde, tu te lèves de ton siège et tu le...
Je préfère la passe. Knicks ou Nets, donc en basket?
Ah, en basket, Knicks.
Knicks aussi pour le Madison Square Garden. Alex Smith ou Colin Kaepernick? Alex Smith.
Alex Smith pour l'instant, toujours aussi. Suivante pour moi, excusez-moi, je l'ai pas prise en avance du coup. Moustache. Joe Flacco ou Aaron Rodgers? Question de Jamie Dolphins 2.
Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers également.
On va peut-être pas s'expliquer pour la moustache. Mais...
le dessin, je la trouve un peu plus propre, il fait un peu plus viking.
Un peu moins acteur porno, mais...
Ouais, les deux font très acteur porno.
Question de Tomek. Moss 2007 ou Calvin Johnson?
Calvin Johnson.
Moss 2007. Je sais pas, Moss en 2007, j'ai vraiment trouvé que c'était impressionnant. Il attrapait tout ce qu'il voulait, quoi. Ocho Cinco ou Terrell Owens?
Terrell Owens.
Ocho Cinco pour le côté blagueur.
Ouais,
un
mais
peu plus
talentueux, Terrell Owens. Oui, enfin, plus bosseur et talentueux.
C'est sûr. Alors, à nouveau, Moss ou Plaxico Burress comme retour.
Actuel.
Comme retour.
On va dire Moss, mais.
Plaxico, moi, il me fait bien rire. Rex ou Rob Ryan? Rex.
Rex.
Vic ou Romo? Romo, quand même. Eli ou Peyton?
Peyton.
Eli. Mais bon, c'est un peu plus. Gronk ou Graham?
Gronk,
ouais, pour le côté festif.
Non, et puis il est encore plus impressionnant, je trouve, quand il est dedans.
Janikowski ou Vinatieri?
Janikowski.
Aussi.
Vinatieri vieillit.
Ouais, Koski aussi. Et Ryan Leaf ou Jamarcus Russell? Ryan Leaf, quand même.
Ryan Leaf, parce qu'en plus, il avait un sujet qui s'embrouillait avec les journalistes, ses coéquipiers et tout, ouais, il était excellent. Question de Pato, c'est parti. Vrai dilemme du côté de Kansas City, Castle ou Queen?
Castle.
Continuons au côté des grandes franchises historiques.
T'as pas dit Castle?
Ah, pardon, Castle. franchise historique, Bears ou Packers?
Packers.
Packers pour Lombardie. Bears pour les maillots, j'aime bien. Californie, Niners, Raiders, Chargers?
Niners.
Niners, pareil pour l'histoire. New York, Jets ou Giants?
Giants.
Giants.
Alors, la mouche, Jim ou John Harbaugh?
John. John, ouais, plus mesuré.
Oh ouais, Jim. Défense des Bills ou des Titans?
des Bills parce qu'il y a plus de potentiel.
Ouais, moi des Titans parce que justement au moins il y a pas de potentiel et je me dis on m'accusera pas d'être mauvais. Ligne offensive des Eagles ou des Colts ou des Cardinals? Oh bah les Colts hein.
Des Colts, ouais.
Ouais, c'est moins pire que ce qu'il y a là-bas.
Ils en prennent aussi, mais bon.
Trent Richardson ou Doug Martin? Doug Martin.
Ah, j'aime bien le côté complet de Doug Martin.
Ouais, bah c'est ça, il est plus complet à la réception.
Tamekaz, Carolina Panthers ou Los Angeles Panthers?
Carolina.
Moi, ça me plairait bien Los Angeles parce que Cam Newton a un petit côté Hollywood. Je le sens que ça lui plairait.
C'est vrai. Alors, Gemini76, avoir le bide de Carlos sous la tête de Sim.
Alors, ouais, n'hésitez pas à vous lâcher. On en refera une pendant la saison de dilemme comme ça. Faudra pas hésiter à vous lâcher, à nous proposer des trucs dans ce genre-là. Alors, donc on a dit le bide de Carlos sous la tête de Sim.
Le bide de Carlos, allez.
Ah, la tête de Sim.
Être manchot.
C'est parce que je commence déjà à perdre mes cheveux.
Être manchot ou cul de jet?
C'est dur ça.
Manchot, allez. Hop.
Ouais, c'est dur quand même. Ah, je sais pas, non, c'est dur, c'est un peu horrible quand même.
Non, rien.
Non, ouais, je peux pas choisir.
Ok. Alors, Giants ou Redskins? Giants.
Giants. En ce moment, Redskins. Ah, regardez, c'est plus fun.
Ravens ou Steelers?
Steelers.
Steelers aussi. Et AFC ou NFC? NFC.
NFC. Non, AFC. Patriots LB, Adrian Peterson, Ray Rice.
Ray Rice.
Patrick Willis ou Brian Urlacher? Alors attends, j'ai pas dit Peterson pour moi. Willis ou Urlacher?
Urlacher, plus vieux, plus de mérite à être au top depuis 10 années.
Willis, plus jeune et justement plus explosif. Okay. Et Rob Gronkowski, Jimmy Graham, on avait déjà répondu. Question suivante, c'est bien ça, on peut en faire plein, on enchaîne.
Alors, pas mal. Question de Clay Luck. Cheveux de Clay Matthews ou barbe de Brett Kessel?
Je sais.
Allez, moi, un peu nostalgie, les cheveux de Clay Matthews.
Oui, on vous rappelle que Raphaël s'est scalpé pendant la saison. Moi, je dirais la. Ouais, les cheveux aussi, la barbe, ça me gratte trop quand même. Adrian Peterson ou Ryan Foster?
Peterson.
Peterson aussi. Devin Hester, Jacoby Jones, Josh Cribbs ou Patrick Peterson au retour?
Patrick Peterson, j'ai trouvé ses retours souvent plus explosifs l'an dernier.
Patrick Peterson pour moi aussi. Urlacher ou Ray Lewis?
Ray Lewis.
Ray Lewis. Ed Reed ou Troy Polamalu au sommet de leur forme?
Ed Reed.
Troy Polamalu. Mark Sanchez ou Brady Quinn ou Philippe Rivers dans un quatrième carton ou Matt Cassel?
Ah mon dieu. Oh là là. Fou.
Sanchez, Quinn, Rivers dans un quatrième ou Cassel?
Rivers, parce qu'à un moment il a été un peu bon. À un
ouais.
moment.
Ouais. Allez. Vache. Rivers, c'était des questions d'RB4.
Alors. Sgilmillion, ouais, c'est ça. Thibaut ou Lynn? Jeremy Lynn, je suppose. De NBA.
Thibaut. Team Thibaut.
Ouais. NBC ou Fox ou CBS?
Ah, sur les commentateurs, je fais jamais attention à quelle chaîne je regarde.
NBC, bon.
Je crois que c'est, j'aime bien Chris Collinsworth, je crois que c'est NBC.
Ouais, je crois aussi. Fumble ou interception?
Interception.
Fumble, souvent c'est un gros. Gros coup, j'aime bien. Sanchez ou avec une chaise? Avec une chaise.
Avec une chaise aussi.
Alors, JJ Watt ou. Attends.
Alors là, tu bloques. Qu'est-ce
ouais,
qu'est-ce
parce qu'il y a In Newton, mais je trouve ça un peu bizarre.
Ah oui, parce qu'il doit y avoir une référence avec Watt
oui.
et Newton.
Watt, Newton et Copernic, donc je vois les références.
Ah bah, il y a Copernic, bah, Watt oui, et Newton, donc il y a quelque chose de physique.
C'est ça.
Donc on va dire Watt.
Watt, ouais. C'est ça, Andy Dalton ou Andrew Lucky Luck?
Luck.
Dalton. Adji Green ou Roddy White ou Andrew Brown ou Isaac Redman? Donc là, on est dans les couleurs.
Non,
Green,
attends,
White, Brown ou Redman?
Green.
Adji Green.
Adji Green, oui, pardon.
Cecil Shorts ou Ceci...
ou Chris Long.
Chris Long, oui, pardon.
Chris Long, mais très très
Chris
bien
Long
trouvé
aussi,
en tout cas.
Ouais.
Félicitations, c'était le pseudo. C'était...
Alors, Sgilmillion.
Ouais, vraiment très bien trouvé, félicitations. Un peu de mélange avec d'autres sports histoire de rigoler un peu. Jerry Rice ou Michael Jordan?
Jerry Rice.
Ah, Michael Jordan, inégalable. Rodman, Dennis Rodman ou Chad Johnson?
Dennis Rodman.
Pareil, ouais, Dennis Rodman, inégalable. Meta World Peace ou Chad Ochocinco?
Oh, Chad Ochocinco, plus
ouais.
gentil
ouais,
quand même,
ouais,
un peu
ouais,
moins
y a pas
sale.
Eu la bagarre. Ouais. Ouais. Mathieu Valbuena ou Doug Martin?
La taille, sûrement Doug Martin.
Doug Martin aussi, honnêtement, j'y connais rien en foot, donc je ne sais pas.
C'est pour la taille.
C'est pour la taille, d'accord. Théo Walcott versus LeSean McCoy.
LeSean McCoy.
Pareil,
ouais,
je connais le nom, mais.
Il court vite, c'est pour
d'accord,
ça.
D'accord, bah, LeSean McCoy pour moi aussi. JJ Watt contre Louis Picamol.
JJ Watt.
JJ Watt. Von Miller, Thierry du Sautoir.
Von Miller.
Von Miller. C'était Essoper les questions.
On continue.
Oui, on va continuer un peu. Je crois qu'on est un peu en retard.
Alors,
c'est pas
question
grave.
De Aimeji, NFL Europe ou match annuel à Londres?
Match annuel à Londres.
Match annuel à Londres.
Match annuel à Londres. Allez, on a un vrai match de saison régulière.
Alors, Canadian Football League ou USL Football League?
L'USFL, c'était pas mal.
Ouais, moi aussi, je suis plutôt pour. Green Bay Packers, enfin. Troisième maillot des Green Bay Packers ou troisième maillot des Denver Broncos?
C'était quoi, lequel, celui des Broncos, ouais, c'est l'orange ou
Bah je crois, oui, du coup.
Bon, en tout cas, c'est Broncos, j'aime pas celui des Packers.
Je dirais Packers plutôt. Saison à 14 matchs ou saison à 18 matchs?
À choisir 14, il y a plus d'intensité.
Ouais, franchise à LA ou franchise à Londres? Los Angeles.
À LA.
Les cheerleaders de Détroit ou celle de Atlanta?
Celle de Tampa.
Ouais.
Désolé, j'ai pas trop d'idées sur ces deux-là.
Je sais pas, non, pareil. Désolé. Hein. Franchise tag ou restricted free agent?
Les deux sont pas très marrants. Je dirais restricted free agent.
Et enfin, Memphis Grizzlies ou Baltimore Bombers?
Je connais pas. Ouais, les ouais, Baltimore Bombers, donc je dirais les Grizzlies parce qu'ils jouent bien en ce moment.
Ouais, pareil.
Et puis on va terminer. Allez, Notre-Dame ou Alabama?
Alabama. Pour le côté défense.
Notre-Dame pour le côté tradition. Randy Moss 2007 ou Wes Welker?
Randy Moss 2007.
Manning ou Manning? On l'a déjà dit. Donc ouais. Peyton pour moi, il est pour toi. Et salade ou tomate? Question de Skyfox.
Tomate.
Salade. Je déteste les tomates. Ouais. Merci à vous pour toutes vos questions. On passe tout de suite. On a dit on le refera les dilemmes parce que c'est assez marrant et puis ça permet d'en prendre beaucoup. On passe tout de suite au match de la semaine. You'll never die.
240. Where's number 11? Griffin keeps it. He's got him. Downfield. Robinson for the touchdown.
Touchdown de Robert Griffin, c'est le premier match de la semaine, Washington Redskins contre New York Giants, les champions retrouvés contre le quarterback le plus fun de la ligue. Ça se passe un lundi soir, ça va être donc excellent. Tu es supporter des Giants, qu'est-ce que tu attends de ce match?
Qu'est-ce que j'attends de ce match? Bah, espérer que la défense des Giants, ce qui à mon avis sera la clé du match, puisse limiter, parce que bloquer ça va être compliqué, mais au moins limiter Robert Griffin. Ça me paraît parce que après je pense qu'Eli Manning fera le taf nécessaire en attaque pour battre la défense des Redskins.
Ça va être un match-up hyper intéressant, je trouve, parce que Griffin peut échapper au pass rush parce qu'il a des super jambes,
oui.
Et il peut transpercer la défense aérienne des Giants, donc ça peut être assez explosif.
Ouais, ça va être même sûrement explosif. Le match aller déjà avait été assez explosif avec ces deux actions en fin de match.
Ouais, les Giants se sont imposés à moins de 2 minutes de la fin un gros touchdown. Alfred Morris avait gagné 120 yards aussi. Donc ça, et Griffin avait déjà fait un bon match. Donc ça peut, pour une fois, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que la NFC Est va... On est sûr que ça va nous offrir un bon match.
C'est vrai.
On va pas être en train de dire oui, mais s'ils sont à leur potentiel...
Ouais, par contre, à savoir que si les Giants gagnent ce match... Le titre de division est quasiment assuré.
Alors on n'en a pas encore parlé, mais il y a 4 équipes qui peuvent déjà assurer leur place en playoff dès ce week-end. C'est les Patriots, les Broncos, les Texans, et la 4e m'échappe, mais il y a bien 4 équipes. Ouais. Les Falcons, voilà, qui peuvent attirer. Alors il y a des petites combinaisons, il faut qu'ils gagnent, que certains perdent, etc. Mais il y a déjà ces 4 équipes-là, en fait, peuvent se qualifier pour les playoffs.
Pour avoir testé le simulateur ESPN, si les Giants gagnent ce match, ils sont à 90% sûrs de se qualifier. Quoi, pour
d'accord.
La suite.
Bon, en tout cas, match vraiment à voir parce que Robert Griffin c'est toujours du spectacle.
C'est vrai.
J'ai un trou. Non, je pense que cette défense des Giants dans un bon jour peut un peu gêner Griffin.
Oui.
Mais ça joue tellement bien en ce moment que vraiment on est impatient de voir ce match-là. Oui. On a déjà parlé un peu des deux équipes.
Premier Monday Night
aujourd'hui.
Pour
ouais, premier Monday Night. Donc on sait qu'il n'a pas peur des grands moments. Donc ça peut vraiment être le show. On a déjà parlé de beaucoup de ces deux équipes précédemment. Donc on va passer à la suite. La suite, c'est Chicago Bears contre Seattle Seahawks. Ça va être un tout autre genre. Troisième défense de la ligue, celle de Chicago contre la cinquième, celle de Seattle. Ça va être dur.
Ah bah ça va être très dur pour les deux quarterbacks qui vont devoir affronter ces deux défenses. Maintenant, il va falloir savoir comment la défense, enfin comment les deux cornerbacks des Seahawks qui ont été pris pour une affaire de...
Alors ils seront là apparemment eux.
Ils seront là maintenant dans quel état psychologique, ça peut avoir un impact je pense
c'est
quand
vrai.
Même. Si les mecs sont un peu démotivés parce qu'il leur
vu
arrive,
leurs excuses, ils ont pas l'air d'avoir la force mentale d'un Lance Armstrong face aux accusations en effet.
C'est vrai, donc... À voir comment ça va jouer de ce côté-là et Wilson qui va avoir à faire une très très grosse défense face à lui. De toute façon, ça va être la clé, les défenses de ce match, laquelle va.
Moi, je pense que la clé, c'est aussi Cutler parce qu'on sait qu'il peut sortir des matchs bien vilains.
C'est vrai, c'est inquiétable.
Parce que sa ligne offensive est pas top. Alors, ils viennent de faire venir André Gurod pour solidifier un peu, mais ça, c'est ouvert. Les cornerbacks de Seattle sont quand même très bons selon l'état d'esprit, mais ça peut être très bon. Ce qui m'inquiète, c'est que les Seahawks n'y arrivent pas à l'extérieur. Ils sont à une victoire, 5 défaites. Ils marquent seulement 16 points en moyenne quand ils ne sont pas chez eux. Donc, contre la défense des Bears en plus, c'est compliqué.
Clairement, ça va être compliqué.
Je trouve que les Bears sont plus solides et complets. Ils sont clairement les favoris de ce match.
Après, comme on a dit, il faut voir l'état des 6 blessés qu'il y a eu dans les titulaires. Ça peut quand même faire pas
après,
mal de...
Après, ça peut... puisque donc il y a, je crois que c'était...
Matt Forte,
Charles Tillman, David Nestor.
On sait qu'il est celui de la ligne offensive.
Alors, il y a deux linemen offensifs qui ont été touchés aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué.
Faut voir aussi ça.
Ça va être une belle bataille défensive.
Ouais.
Ça va être très serré, à mon avis. Sauf non-match de Cutler, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu le danger avec lui. Mais il l'a fait moins cette année, quand même. Il en a eu un ou deux très vilains. Mais il le fait un peu moins. Donc, faut voir. La clé, ça peut être aussi le jeu au sol, parce que les Bears donc, sont un peu moins bons cette année. Mais Michael Bush peut faire un gros match si Forte est pas là. Mais Marshawn Lynch tourne très bien cette année.
Il a enchaîné plusieurs matchs à plus de 100 yards.
Ouais, c'est un des coureurs dont on parle le moins. Sauf cette semaine, nous dit Camille, bien sûr. Mais oui, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il tourne très bien. C'est un des très bons coureurs dont on parle le moins, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Dans la ligue. Et ça peut être une des clés de ce match. Mais après, ça va vraiment être une opposition de défense. Ça peut se jouer sur une interception. Ça peut se jouer sur un fumble. Ça peut se jouer sur ce genre de choses-là. Et donc, forcément, ce sera à regarder si vous aimez la défense. Atlanta Falcons, New Orleans Saints. Est-ce que c'était une de nos affiches il y a 2 semaines? Oui. Mais est-ce qu'on est obligé de le refaire? Oui, c'est un match à ne pas manquer. On est obligé d'en parler dans nos affiches de la semaine. Les Saints sont en mode survie, on l'a dit.
C'est ça.
Cette fois, ils vont jouer à l'extérieur. Ce sont les seuls à avoir battu les Falcons cette année. C'était en semaine. Alors, c'était il y a trois semaines. Deux ou trois semaines. Ouais, ils avaient gagné grâce à des stops défensifs à la fin du match. Ils avaient retrouvé un peu leur jeu au sol. Est-ce que c'est la même recette pour jeudi?
Oui, là, ils vont devoir exécuter le même plan de jeu pour battre les Falcons. On sait que les Falcons sont plus, ont l'air d'avoir un petit complexe d'infériorité face à ces Saints. Ça leur coûte pas mal de matchs comme ça.
Alors, et puis en parlant d'état d'esprit, je pense que maintenant faut tourner la page sur les Saints du début de saison. C'est fini.
Plus les mêmes.
C'est plus la même équipe. On parle plus de l'équipe qui a perdu beaucoup en début de saison. Faut voir cette équipe qui a gagné 5 de ses 7 derniers matchs, qui est sur une bonne dynamique. Même si elle a perdu son dernier, elle l'a perdu contre une très bonne équipe. C'est ça le plus important maintenant. Donc moi je pense que ils ont encore une chance de faire la même chose. Et
ah,
on
oui.
parlait de Michael Turner et Jacquizz Rodgers. C'est capital. Parce que, on l'a vu, ces deux équipes, elles savent passer. Il faut que le jeu au sol d'une des deux se mette en marche,
voilà,
et que la défense fasse quelques coups. Alors, la défense des Falcons est plus solide dans l'ensemble,
mais fait moins
de coups.
C'est ça, moins explosive.
Et celle des Saints, voilà, peut réussir à arracher quelques ballons, à faire des choses comme ça, ou une interception. Donc, c'est vraiment équilibré. Ça va vraiment être un très beau match. C'est jeudi, hein, on l'a dit brièvement.
C'est rare qu'on ait un jeudi soir.
Voilà, c'est rare qu'on ait un match très très attendu le jeudi soir. Cette année, on n'avait pas été gâtés. Donc là, va y avoir vraiment une raison de se lever et d'avoir des petits yeux au boulot vendredi. Mais vraiment, match très attendu. Alors, la défense des Falcons, c'est pas celle des Niners. Donc, Drew Brees devrait être plus en réussite.
Ouais.
Les Falcons, eux, ont les moyens de répondre. Donc, vraiment, ça peut être explosif. Ça peut être explosif. Mais on parlait du jeu au sol. Les Falcons sont 28e de la ligue. Ils sont derrière les Saints.
Ouais, bah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un jeu au sol aussi. Parce que ces dernières années, Michael Turner, à lui tout seul, faisait le taf. Donc, c'est sûr, ça peut être utile de garder Brees plus longtemps sur le banc. Donc.
Non, faut vraiment, moi, c'est ma clé du match, c'est l'équipe qui va réussir à faire démarrer un peu son jeu au sol.
Ouais.
Et on le disait, il est temps de donner les clés quand même à Jacquizz Rodgers du côté de l'attaque.
C'est vrai.
Alors, garder Michael Turner impliqué d'une manière ou d'une autre, l'économiser pour les playoffs peut-être, mais là, en ce moment, ça fonctionne quand même difficilement. Donc, il faut donner une chance à Rodgers, il n'y a rien à perdre. Hein. De ce côté-là, encore une fois, donc on l'a dit, très très belle opposition à venir ce jeudi. À ne pas manquer, je crois que ce sera 2h20 ou 2h30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Vraiment, à ne pas manquer cette opposition. Les Saints jouent leur survie, les Falcons jouent la division. Hein. Je crois que s'ils gagnent, ils doivent avoir besoin juste d'une victoire. Une victoire et une défaite des Buccaneers, je crois qu'ils sont qualifiés, les Falcons,
ouais,
en playoff. On se retrouve pour tous les pronostics de la semaine, juste après ça.
Dump off. Rice has some room, but can he really get to that first down line? Rice stays on his feet. Oh, Ray Rice! Incredible! Ray Rice has done it. A first down for the Ravens with a minute 40 to go. He needed 29 yards and he got 30.
Et oui, le first down de Ray Rice, un son et un commentaire qui est digne de notre générique. Hein, ça, celui-là, il était plutôt pas mal. Donc, on passe au match de la semaine. Un petit point sur les scores des pronostics.
J'ai
Raphaël.
Une mauvaise nouvelle pour toi. Cette semaine n'a vraiment pas été bonne.
Mince.
Tu as fait un 7 sur 16.
Ouf, ah ouais, ça pique.
11 sur 16.
Oh là 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 là.
Tu as 105 et moi à 118. 13 points. J'ai repris 4 points d'avance.
Oh, ce que j'ai mangé. Mon Dieu.
Ça risque d'être dur. Hein.
Mon Dieu. Donc, on s'est accordé, hein, plus ou moins, ce sera le Thibaut Wings sous la Tour Eiffel, on est d'accord?
Oui, ça me va.
Je commence à me préparer. Hein. On a pas de maillot de Marc Sanchez ou quoi,
non,
mais on a quand même un maillot des Jets. Donc ce sera pas Sanchez ou Thibaut, mais on a un maillot des Jets. Donc ce sera l'occasion.
Ce qui suffit à ridiculiser en ce moment, un maillot des Jets.
Oui, je me baladais avec un maillot des Jets. Donc le gage c'est qu'il faut que j'aille jusqu'à la Tour Eiffel en le portant en plus. J'ai pas le droit de le mettre juste en étant là-bas, c'est ça?
Ouais, moi je préfère.
Faut que je me balade dans Paris avec.
Ouais,
bon allez, on est parti pour les pronostics. Coup d'envoi jeudi 2h20 du matin. Atlanta Falcons 10 victoires 1 défaite, Saints 5 victoires 6 défaites.
Allez les Falcons à la maison.
Donnez-moi les Saints à l'extérieur. Coup d'envoi dimanche à 19h. Chicago Bears 8 victoires 3 défaites, Seattle Seahawks 6 victoires 5 défaites.
Les Bears
pour moi également. Tennessee Titans 4 victoires 7 défaites, Houston Texans 10 victoires 1 défaite.
Même si la défense des Texans est moins bonne, l'attaque devrait suffire pour gagner ce match, donc les Texans.
Oui, et puis il y a encore des petites imprécisions, ils vont avoir changé de coordinateur offensif. Donc je pense que je vois bien les Texans même martyriser les Texans. Les Titans. Ça commence par un T aussi. Dolphins 5 victoires, 6 défaites, Patriots 8 victoires, 3 défaites.
Les Patriots sont des rouleaux compresseurs en attaque, ça suffira largement pour battre les Dolphins.
Ouais, et je tiens à lancer un pari, si Ryan Tannehill suit le rythme de Tom Brady cette semaine... Je fais le Team Thibaut sous la Tour Eiffel dès mardi prochain. Voilà, je le dis. Buffalo Bills, 4 victoires, 7 défaites. Jacksonville Jaguars, 2 victoires, 9 défaites.
Chad Henne va vouloir confirmer qu'il peut être le quarterback des Jaguars. Je le vois bien embêter les Bills, donc Jacksonville, allez.
Moi, je vais dire les Bills quand même, parce qu'ils sont à domicile et puis ils vont nous faire le coup d'une semaine sur deux. Ouais. Lions, 4 victoires, 7 défaites. Indianapolis Colts, 7 victoires, 4 défaites.
Les Lions jouent plus grande chose, les Colts sont en route pour les playoffs, mais je vais quand même donner l'avantage aux Lions, l'attaque, la défense.
Ouais, moi je donne les Lions aussi. Je crois que je les ai mis juste devant les Colts dans le power ranking, justement que les Colts devaient prouver que je m'étais trompé. Donc je pense que je mets une piécette sur les Colts, sur les Lions aussi, parce que je pense que leur ligne peut faire du dégât. Si Sue ne tue personne et qu'on ne doit pas arrêter le match, tout ça, je pense que ce sera les Lions. Chiefs, une victoire, 10 défaites, Carolina Panthers en face, je n'ai pas le bilan.
Bah, j'ai envie de dire que c'est enfin une chance pour les Chiefs de gagner, mais même pas, je crois que Cam Newton...
Ouais, les Panthers par défaut aussi, ouais, voilà. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de pas mal. Packers, 7 victoires, 4 défaites, Vikings, 6 victoires, 5 défaites.
Ah, les Vikings sont vraiment en difficulté là, les Packers vont vouloir se reprendre pour les playoffs, donc Aaron Rodgers supérieur à Ponder.
Ouais, même chose, je les trouve vraiment en perte de vitesse les Vikings, donc on va me donner les Packers aussi. Rams, 4 victoires, 6 défaites, San Francisco 49ers, 8 victoires, 2 défaites, 1 nul.
Les Rams sont sortis pas trop mal il y a deux semaines contre les 49ers avec ce match nul, mais les 49ers quand même favoris avec leur défense.
Et on ne sait pas avec quel quarterback, toujours.
Ouais, c'est vrai.
Encore une fois, ça se trouve, ça va être annoncé dans la minute où on va mettre le podcast en ligne. Mais bon, les 49ers, quel que soit le quarterback en face. Ouais. Jets, 4 victoires, 7 défaites. Cardinals, 4 victoires, 7 défaites. On remet la musique du cirque. Non, pas.
Les Jets pour le match victorieux d'après défaite de Mark Sanchez.
Oui, c'est ça. Le match où il va garder son job, encore une
Surtout
fois.
Surtout qu'Arizona, il n'y a pas grand chose non plus.
Oui, c'est ça, c'est un carnage. Okay. Là, c'est, si vous aimez ça, ça va être laid quand même. Entre Mark Sanchez et Ryan Lindell sur le terrain. Il y a quand même 8 interceptions qui attendent d'arriver. Hein.
C'est quelque chose comme donc ça. Donc les Jets, mais vraiment par défi.
Ouais, les Jets aussi, c'est le match de la survie de Sanchez. Coup d'envoi dimanche 22h05. Broncos 8 victoires, 3 défaites. Buccaneers 6 victoires, 5 défaites. Match très sympa qu'on aurait pu mettre dans les matchs de la semaine d'ailleurs.
Ouais, sympa. Deuxième gros test pour les Buccaneers. Mais j'ai peur que ce soit trop juste pour des Broncos qui sont bons en défense et très bons en attaque avec Peyton Manning.
Ouais, je trouve aussi. Ils gagnent sans être flashy, mais ils gagnent. Et on a vu que dans cette NFL cette année, il n'y avait pas de match facile. Les Broncos les enchaînent, même quand c'est des équipes de bas de tableau. Donc, et ça joue bien des deux côtés. Manning dirige bien cette attaque, Von Miller joue bien en défense. Voilà. Encore une fois, ça aurait pu être un de nos matchs de la semaine, ce match-là, parce que ça va être vraiment très sympa à suivre. Coup d'envoi dimanche 22h25, Baltimore Ravens, 9 victoires de défaite, Steelers 6 victoires, 5 défaites.
Charlie Batch aux commandes, donc victoire des Ravens.
Même chose, ouais. Domicile Baltimore. En plus, Flacco joue mieux à domicile. Et puis, s'il n'y a pas de Big Ben, il n'y a pas de victoire. Chargers, 4 victoires, 7 défaites. Bengals, 6 victoires, 5 défaites.
Les Bengals, pour la forme du moment, meilleur en attaque, meilleur en défense.
Ouais, beaucoup plus régulier, les Bengals, pour moi aussi. Raiders, 3 victoires, 8 défaites. Browns, 3 victoires, 8 défaites.
Les Browns, ils sont bien en ce moment. J'ai vu sur les 6 derniers matchs, ils sont à 3 victoires, 3 défaites. Ils sont pas trop mal.
Ils sont beaucoup plus disciplinés et solides que les Raiders.
Ouais, les Raiders. Voilà.
Coup d'envoi dimanche 2h20 du matin. Cowboys, 5 victoires, 6 défaites. Eagles, je crois qu'ils sont à 3-8 ou quelque chose comme ça.
Ouais. Les Cowboys, plus de talent. Et ils jouent pour quelque chose alors que Philadelphie, plus rien.
Ouais, il y a plus de solutions aussi, moins de blessés. Donc les Cowboys pour moi. Lundi 2h30 du matin. Redskins, 5 victoires, 6 défaites. Giants, 7 victoires, 4 défaites.
Les Giants
également, et au repos cette semaine, plus personne, c'est fini les temps de repos. Tout le monde est au boulot. On termine avec le 2-minute drill. C'est parti. Le supporter numéro 1 des Jets, Fireman Head, a abandonné la franchise. Une idée de quelqu'un pour le remplacer ?
Strictement aucune là. Je sais pas qui voudrait prendre ce fardeau. Alerte théorie du complot. Est-ce que les Dolphins ont fait exprès de déclencher l'arrosage automatique contre les Seahawks ?
Eh bah, les Seahawks tournaient bien. L'attaque était pas mal. Ça courait et tout ça. Je me demande moi s'il y a pas un coup du jardinier derrière ça.
C'est comme dans la pub là.
Bon, bah alors pas de complot visiblement. De complot, ouais. Officiellement, ils étaient restés sur le réglage du samedi, les arroseurs automatiques, c'est pour ça qu'ils se sont déclenchés. Ouais. Kelvin Johnson va-t-il battre le record de yards à la réception sur une saison de Jerry Rice ? La marque est à 1848 yards sur les bases actuelles, il serait 20 derrière.
Je pense pas, ça va être difficile quand même. Le Bounty Gate continue, t'en as encore quelque chose à faire ?
Strictement rien. Honnêtement, commence juste à avoir envie que ce soit terminé. Rex Ryan a déclaré avoir vécu un cauchemar cette semaine, est-ce que tu penses que ça peut être encore pire ?
Ah, ça va être difficile, mais on ne sait jamais avec ces Jets. Matt Flynn qui dit ne pas avoir de regrets, tu y crois ?
Bah, non, je pense qu'il est honnête, parce que Miami, ça aurait peut-être pas été mieux, mais il regrette peut-être un peu Miami. Puis enfin, les cornerbacks des Seahawks accusés de dopage. Le premier dit qu'il s'était à l'insu de son plein gré, le deuxième dit qu'il y a un souci de procédure. Est-ce que tu as une meilleure excuse à leur fournir ?
Ouais, un peu style les guignols avec Richard Virenc, là, le moustique qui avait piqué Virenc pour lui injecter du produit dopant.
C'est le moustique qui lui a injecté le produit dopant.
Ouais,
c'est comme ça qu'on termine ce podcast Jeune Actu numéro 39. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour le 40e numéro de ce podcast. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques, podcast@touchdownactu.com. En attendant, comme d'habitude, toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touchdownactu.com. Bonne semaine et très bon match à vous. Ciao, ciao!
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.